On vient donc d'écouter la conférence, les échanges entre l'équipe qui était intervenante aujourd'hui et puis le public en direct sur Eiffel Radio. Je vais peut-être demander aux intervenantes et aux intervenants si vous voulez bien venir quelques minutes près du podium d'Eiffel Radio. Je vais prendre encore un tout petit peu de votre temps. Et pour nos auditrices et nos auditeurs, parce qu'on a vu la question tout à l'heure des personnes qui assistaient à votre table ronde, de toujours ce manque d'informations. Est-ce que pour vous, le grand public est suffisamment informé, notamment de la présentation générale des deux maladies que vous représentez, docteur Carrière? Parce que si vous faites l'effort de vous associer à des journées comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la vulgarisation à faire sur les symptômes, sur l'approche, sur la manière dont on accepte le diagnostic aussi?
Oui, c'est des maladies qui sont. Tout le monde en a entendu parler et en même temps, elles sont assez mal connues quand on
Et
n'y est pas
parfois
confronté
très mal.
de près et parfois avec beaucoup de fausses croyances ou. Pour la maladie de Parkinson en particulier, pour tout le monde, on va lier tremblement et Parkinson. Il y a des patients qui ne tremblent pas du tout. Et en fait, les patients sont surtout, la plupart du temps, gênés par autre chose que par le tremblement. Il y a d'ailleurs une campagne qui a été de France Parkinson qui a été diffusée avec une vidéo assez choc, qui ne laisse pas indifférent, qui a été diffusée là, entre le mois d'avril et le mois de mai. Peut-être que vous l'avez vu, qui était ouais, enfin, c'était particulièrement angoissante la vidéo qui a été diffusée et qui a cette volonté de finalement de en tout cas une volonté de l'association de faire plus parler de la maladie qui est effectivement assez méconnue donc oui bon, c'est pour ça qu'on partit effectivement c'est intéressant de reparler de réexpliquer sur régulièrement pour que les gens soient plus sensibilisés sur les symptômes de ces maladies. Je pense que c'est pareil pour la maladie d'Alzheimer.
On en parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, y compris dans les médias. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en parle bien, docteur Lepoutre?
Peut-être ce qui est important, c'est d'en parler. Je pense que tout le monde essaye d'en parler le mieux possible et surtout sensibiliser les personnes concernées. Mais vous posiez la question, est-ce qu'on en parle assez? Il y a aussi le fait que tant qu'on n'est pas concerné personnellement en tant qu'aidant, par exemple, bah peut-être on ne va pas être attentif à cette information-là. Mais ce que la Maison des aidants et le réseau essayent de faire, c'est à partir du moment où on va être concerné, eh ben, qu'on arrive à trouver l'information et ce qu'évoquait cet aidant tout à l'heure, ne pas cibler pour ne pas perdre son temps et son énergie qui est très importante pour nos proches.
Le moment est finalement très très important. Au moment où on va avoir besoin de cette info, il faut que la rencontre se fasse à ce moment-là.
On a aussi, au niveau de la Maison des aidants, un programme et une mission, du coup, dans toutes les maisons des aidants, de former. Et donc, c'est pour ça que nous, comme le disait le docteur Carrière, on travaille notamment à partir de cette année sur une formation via France Parkinson, donc en fin d'année, qui est ouverte, du coup, à tous les aidants. Et tous les ans, on organise via France Alzheimer une formation aussi complète qui explique vraiment tous les signes, les comportements, les attitudes. Et qui répond du coup à toutes les questions. Donc, je pense que c'est nécessaire quand même le stipuler que les maisons des aidants sont là aussi pour ce côté de formation avec nos partenaires.
Alors, moi, je voulais aussi vous poser toute dernière question. C'est comment vous, en tant que praticien du médical, vous avez abordé la relation avec l'aidant quand il accompagne le patient à une consultation? Parce que très longtemps, le médecin souhaitait parler au patient, mais avait des difficultés pour préserver aussi la relation singulière entre le médecin et le patient. Et l'aidant, parfois, veut se substituer un petit peu à la volonté, du patient. Comment vous gérez ça dans vos deux disciplines?
Je pense que ce qui est important, c'est d'accueillir les dents. Et si le patient souhaite être accompagné par la personne de son choix, c'est à nous de l'accueillir et puis de partager l'information avec l'accord de la personne suivie. Et maintenant, on sait bien que les proches font partie intégrante de la prise en charge des maladies neurodégénératives et de nombreuses maladies. Et c'est aussi le rôle de la psychologue de la maison des aidants d'accompagner l'aidant dans son fardeau et justement d'accompagner dans l'évolution de la maladie. Je pense que l'aidant a toute sa place dans la prise en charge de ces maladies.
Parce que dans ces maladies, il y a des stades où le patient ne peut plus exprimer complètement sa volonté. Il faut donc en passer effectivement par les proches. Et quel est le dosage que vous réalisez dans ce cas?
Oui, alors il faut toujours qu'effectivement la personne soit d'accord. Après, il y a les stades où avec des troubles cognitifs très sévères, effectivement, on s'appuie beaucoup sur ce que nous rapporte le proche. Il y a aussi parfois des troubles comportementaux dont les patients n'ont pas conscience, des problèmes d'addiction, par exemple, dans la maladie de Parkinson. Et c'est très important d'avoir le vécu de l'aidant. Et pour autant, il ne faut pas non plus qu'il se substitue au patient. Donc, c'est un équilibre entre les deux et puis qui est un peu différent en fonction de chaque personne et de l'histoire de chacun. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'il faut... On ne peut pas le laisser à côté, quoi. Il faut le prendre en compte. Mais après, un aidant qui prend trop de place et la personne ne peut plus du tout s'exprimer, ben, ce n'est pas souhaitable non plus. Enfin, y a un équilibre qu'on essaye de trouver à chaque fois, je pense. Voilà, on s'adapte. C'est ce qui est intéressant dans notre travail.
Comment la psychologue, justement, prépare l'aidant à cette relation avec les soignants pour que les choses se passent au mieux, sans stress, sans angoisse, voire sans conflit?
Nous, on oriente souvent vers les consultations mémoire ou les cabinets libéraux parce que on a quand même besoin, et l'aidant a souvent besoin de ce diagnostic et de cet accompagnement, alors qui est aussi bien médicamenteux que aussi thérapeutique et psychothérapeutique, ce qui est fait aussi par les médecins. Nous, on leur propose dans l'entretien de nous poser les questions un petit peu qui restent en suspens, et afin de préparer un petit peu et de dire aussi que l'aider, il va avoir toute sa place et il va avoir aussi besoin de décharger un paquet d'angoisse et un paquet de souffrance au médecin, et donc que chacun doit avoir à une place importante. L'aidant est, comme on dit, un peu le sachant, c'est-à-dire qu'il est source d'information, mais que l'aider a aussi besoin de parler et de trouver sa place.